Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 27 Bahman, 1401 du calendrier iranien, 16 février 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un extrait des déclarations du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Pour la République islamique d'Iran, la Chine est un partenaire commercial fiable, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Téhéran a appelé les États-Unis à cesser de soutenir les criminels et les terroristes. Et le régime israélien fait exploser la maison d'un Palestinien tué dans la ville occupée d'Al-Khalil. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien a déclaré que Téhéran et Pékin étaient convenus de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines. Le président Ebrahim Raisi s'exprimait à l'issue d'une visite d'État de 3 jours en Chine. Au deuxième jour de sa visite en Chine, Ebrahim Raisi a eu une réunion avec un groupe de représentants de dizaines de grandes entreprises économiques du pays mercredi après-midi hors local et a déclaré « Avec les bons accords conclus lors de ce voyage, les entreprises économiques des deux pays peuvent faire de grands pas pour développer la coopération dans divers domaines. » Le président Raisi a souligné que les deux pays avaient discuté d'un partenariat dans différents organismes régionaux et internationaux, dont l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a déclaré que la Chine avait également soutenu la candidature de Téhéran pour rejoindre les BRICS+, qui est l'acronyme pour une alliance de 5 grandes économies émergentes, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président iranien a été reçu mardi par son homologue chinois. Il s'agissait du premier voyage du genre d'un président iranien en Chine depuis 2 décennies. Les deux parties ont fini par signer 20 accords de coopération. Dans une déclaration conjointe publiée plus tôt, il a été révélé que Xi Jinping avait accepté l'invitation de Raisi à se rendre en Iran. Les deux présidents ont également appelé à la levée des sanctions américaines contre l'Iran et à la mise en œuvre de l'accord de 2015. Soutenir les terroristes et les criminels fait partie intégrante de la politique étrangère des États-Unis, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, qui accuse Washington de soutenir le groupe terroriste anti-iranien, l'organisation Mujahedin-e-Khalq, OMK. Nasser Kanani, a déclaré que les États-Unis ont soutenu les membres de la SAVAK, une agence de renseignement notoire, sous le régime de Pahlavi en Iran. Kanani a appelé les États-Unis à cesser de soutenir les criminels et les terroristes. Il a également exhorté Washington à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Iran. Samedi, un rassemblement anti-iranien s'est tenu à Los Angeles. Une photo montrait l'ancien sous-chef de la SAVAK prenant part au rassemblement. Il a été impliqué dans la torture des milliers de prisonniers politiques et de citoyens ordinaires au cours des années précédant le renversement du régime des Pahlavi. Pendant ce temps, le Congrès américain a récemment fait pression pour une résolution en faveur de l'OMK. Le tristement célèbre groupe terroriste a tué des milliers d'Iraniens, y compris des hommes d'État, dans les premières années qui ont suivi la victoire de la révolution islamique de 1979. Les forces du régime israélien ont fait exploser la maison d'un Palestinien tué dans la ville occupée d'Al-Khalil en Cisjordanie. La maison de Mohammad Kamal al-Jabari a été rasée dans la nuit de mercredi à jeudi. Al-Jabari a été abattu par un soldat israélien en décembre sous l'accusation d'avoir perpétré une fusillade au cours de laquelle un colon israélien a été tué et plusieurs autres Israéliens ont été blessés. L'armée du régime israélien a révélé plus tard que le Palestinien souffrait d'un cancer en phase terminale et n'avait plus que quelques jours à vivre. Israël exerce une punition collective en démolissant les maisons des familles des agresseurs présumés palestiniens. Les Palestiniens et les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont à plusieurs reprises critiqué Israël pour de telles pratiques qui sont manifestement illégales au regard du droit international. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est revenu sur la situation des médias russes RT et Sputnik au sein de l'Union européenne. Indépendamment de la guerre en Ukraine, il rappelle que ces agences étaient déjà perçues comme un outil de propagande russe. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est exprimé lors d'une conférence de presse face aux médias étrangers. Dans son discours, il a évoqué la censure des médias russes RT et Sputnik au sein de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie russe est en effet revenu sur la situation lamentable de ces deux médias au sein de l'Union européenne. Je tiens d'ailleurs à préciser que RT et Sputnik ont fait l'objet d'une censure et d'une discrimination qui ne sont pas du tout liées à l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a par ailleurs rappelé qu'en 2017, par la voix même du président Macron, les deux médias n'avaient pas été accrédités après avoir été accusés par le chef d'État français d'être des outils de propagande russe. Et enfin, la tension entre l'Union européenne et la Pologne concernant ses réformes judiciaires est toujours vive. À la suite d'arrêts du tribunal constitutionnel polonais contestant la primauté du droit européen, la Commission européenne a saisi la justice de l'Union européenne. La Commission européenne a annoncé ce 15 février saisir la justice de l'Union européenne contre Varsovie à la suite d'arrêts du tribunal constitutionnel polonais contestant la primauté du droit européen, une étape pouvant conduire, in fine, à des sanctions financières. L'exécutif européen, qui se veut le gardien du respect des traités dans l'Union européenne, avait envoyé en juillet dernier un avis motivé à la Pologne, une nouvelle étape dans une procédure d'information lancée en décembre 2021. La réponse de Varsovie, rejetant le raisonnement de la vie motivée, n'a pas permis d'apaiser les craintes de la Commission européenne, qui a en conséquence décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Pologne, a fait savoir Bruxelles dans un communiqué. L'Union européenne est engagée dans un bras de fer depuis plusieurs années avec le gouvernement conservateur nationaliste au pouvoir à Varsovie à propos de ses réformes judiciaires, accusées de saper l'indépendance des juges. Lors d'une audience accordée ce mercredi 15 février à des habitants de la province de l'Azerbaïdjan de l'Est qui se sont recueillis à Téhéran au seuil de l'anniversaire du soulèvement des habitants de Tabriz le 18 février 1978, l'honorable Ayatollah Khamenei a rendu hommage à la participation historique des Iraniens à la marche grandiose du 11 février, qui a marqué le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Le samedi 11 février était un jour historique. Le peuple a créé une épopée à travers le pays. La campagne de propagande, les problèmes que les gens ressentent, les provocations des ennemis, le temps glacial et la température en dessous de zéro dans certaines parties du pays ont tous été stigmatisés par la chaleur de la foi et de la perspicacité du peuple iranien, s'est-il félicité. L'honorable Ayatollah Khamenei a également souligné que la nation iranienne avait transmis le message de son soutien total à l'ordre islamique à travers sa participation à la marche du 11 février. Le message de la nation iranienne à l'occasion de la marche du 22 Bahman du calendrier iranien correspondant au 11 février était un soutien total à la révolution islamique et à l'ordre de la République islamique. C'était plus fort que toutes les voix, a déclaré le leader de la révolution islamique. Bien sûr, il y a eu des voix opposées et dissidentes. Les ennemis, l'empire mondial des médias, qui est entre les mains des sionistes et des Américains, ont essayé de faire prévaloir les voix opposantes, mais non, ils ne pouvaient pas. La voix de la nation a prévalu sur la voix des autres. L'honorable Ayatollah Khamenei a évoqué les émeutes déclenchées dans le pays. L'un des principaux objectifs des émeutes de l'automne dernier à Téhéran et dans d'autres villes était de faire oublier au peuple ce même 11 février. Mais les gens ont préservé et sont venus. Cette persévérance est bénie. Ce qui octroie à la nation son identité, sa grandeur, c'est sa résistance et son endurance. Il ne faut pas défaillir, désespérer, il ne faut pas se laisser intimider par les fanfaronnades de l'ennemi, a-t-il préconisé. Certains pensaient que la République islamique d'Iran est dans l'impasse. Eh bien, si nous sommes dans une impasse, pourquoi l'ennemi dépense-t-il autant d'argent pour nous renverser? Si un gouvernement est dans l'impasse, il n'est pas utile de dépenser autant de moyens pour le renverser. Il se renversera tout seul, a-t-il indiqué. Le leader de la révolution islamique a ajouté : Des milliards de dollars sont dépensés dans le monde pour dérouter la République islamique d'Iran. Ils en parlent ouvertement. Pourquoi font-ils cela? Si nous sommes dans l'impasse, si nous sommes en train de nous effondrer, comme ils veulent le faire croire, ils n'ont pas besoin de dépenser autant d'argent. Les progrès de la nation iranienne dans différents secteurs, tels que la défense, l'industrie et les infrastructures, ont exaspéré l'ennemi, a souligné le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei.
Bonjour à tous. Le sujet du jour étant la visite de M. Raisi en Chine et en personne. M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a donc accueilli le président iranien cette semaine. C'est le sujet donc de notre débat. Pour cela, nous avons préparé donc notre reportage. Je vous le propose maintenant pour par la suite faire venir nos invités. Tout de suite, le reportage.
L'Iran et la Chine ont signé 20 documents de coopération. Dans la matinée du mardi 14 février, le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé à Pékin à la tête d'une délégation économique et politique de haut rang. 20 notes de coopération ont été signées lundi 14 février entre de hauts responsables iraniens et chinois en présence des présidents des deux pays. Ces documents de coopération couvrent divers domaines, dont la gestion des crises, le tourisme, la télécommunication et la TI, l'environnement, le commerce international, la propriété intellectuelle, l'agriculture, l'exportation, la santé, les médias, le sport et le patrimoine culturel. Le président iranien, qui s'est rendu en Chine à l'invitation officielle de son homologue Xi Jinping, est arrivé à l'aéroport international de Pékin et a été accueilli par le ministre chinois de la Culture et du Tourisme. Ebrahim Raisi a été reçu officiellement par le président chinois Xi Jinping sur les locaux du Congrès de la Chine. Pékin cherche depuis longtemps à renforcer ses liens avec Téhéran. Le président Xi Jinping avait décrit l'Iran comme le principal partenaire de la Chine au Moyen-Orient lors d'une visite en Iran en 2016. D'ailleurs, Pékin entend jouer un rôle constructif dans le renforcement de l'unité et de la coopération avec des pays du Moyen-Orient ainsi que dans la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la région, a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin lors d'un point de presse lundi. Pour rappel, le président Raisi est accompagné des ministres des Affaires étrangères, de l'économie, de la route et des transports, du pétrole, de l'industrie, des mines et du commerce et de l'agriculture. Sa délégation comprend également le gouverneur de la Banque centrale d'Iran et Ali Bareri, qui est à la fois le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques et le principal négociateur du pays dans les pourparlers sur la levée des sanctions avec d'autres signataires de l'accord nucléaire iranien de 2015. La visite de Raisi en Chine compte son 10e voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction il y a un an et demi.
Nous revoilà donc sur nos plateaux, nos invités tout d'abord. Donc, premier invité, M. Bernard Cornu, expert en géopolitique. Bonjour, M. Bernard Cornu et bienvenue parmi nous.
Bonjour.
Alors, toujours et un plaisir d'avoir la possibilité d'avoir votre expertise. Notre deuxième invité, M. Luc Michel, un de nos experts réguliers. Bonjour, M. Luc Michel.
Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à M. Cornu.
Alors le sujet d'aujourd'hui fait plaisir parce que conclut finalement plusieurs années de relations diplomatiques et d'accords. C'est la relation entre la Chine et l'Iran qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui a finalement, on peut dire, avoir eu les premiers résultats avec des documents signés. Plus de 20 documents ont été signés, des accords entre donc l'Iran et la Chine. Une situation qui avait commencé donc avant le corona, M. Cornu. Cette venue de M. Ri ici en Chine est finalement la conclusion de toutes les relations diplomatiques entre la Chine et l'Iran depuis, on va dire, ces 5 dernières années, notamment après les dernières sanctions et la volonté des Américains de rendre finalement l'Iran seul au niveau international. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut conclure la situation de cette semaine ?
Oui, tout à fait. C'est un grand pas, un heureux pas vers la consolidation d'un monde multipolaire et d'un nouvel arrangement au sein, par exemple, de l'Organisation de coopération de Shanghai, à laquelle l'Iran s'est rallié récemment, et d'un pôle asiatique qui complète les puissances existantes que sont l'Union européenne. Malgré tous les problèmes qu'elle vit maintenant, elle est une grande puissance économique et politique, même si elle a trop de soumission au fait aux États-Unis, et le pôle important de l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. Donc tout ceci est un grand pas vers la consolidation d'un monde multipolaire et qui signe la fin du monde unipolaire, hégémonique, avec l'hégémonie des Américains. Et aussi, je pense qu'il y a, vu la présence du patron de la Banque mondiale d'Iran, de la Banque centrale d'Iran, je pense qu'il y a eu des discussions aussi pour arranger du commerce dans d'autres monnaies que le dollar, comme d'ailleurs la Chine a pris l'initiative déjà depuis quelque temps, notamment pour les échanges d'une partie de son pétrole avec l'Arabie saoudite.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, il est vrai que le président Raisi a bien indiqué sa volonté d'aller du côté donc est de l'Asie, que eux représentaient l'Ouest, et que donc la Chine, notamment en pays important et l'un des plus grands pays d'Asie de l'Ouest, en fait de l'Est, donc de se rendre plus proche. Monsieur Luc Michel, on sait votre plaisir de voir la multipolarisation en train de s'installer. Alors, l'une des informations que M. Cornu n'a pas partagées, c'est que l'Union européenne a décidé donc de dissoudre l'INSTEX, qui est, si vous, on le rappelle à nos auditeurs, un système économique et bancaire qui avait voulu être mis en place après les sanctions américaines pour permettre une continuité au niveau des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Iran. Un système qui a été complètement qui a été caduc puisque n'a jamais fonctionné. Monsieur Luc Michel, un mot, donc cette rencontre, ce voyage de Monsieur Raisi, qui est donc, comme Monsieur Cornu le dit, une conclusion de ces relations diplomatiques depuis les sanctions.
Et moi, je me réjouis surtout de voir un bloc eurasiatique se constituer face à l'Occident. Téhéran émerge définitivement comme la troisième capitale de l'Eurasie en marche avec Moscou et Pékin. Il y a une nature profonde. Qu'est-ce qui unit Moscou, Pékin et Téhéran ? C'est que ce sont trois vieilles civilisations, ce sont trois vieux empires, trois vieilles cultures, et qui ont chacun ensemble plusieurs milliers d'années de civilisation commune. Contrairement aux États-Unis, qui sont une civilisation sans passé, le philosophe anglais disait que les États-Unis était passé de la décadence à la barbarie, sans être passé par le stade de la civilisation. C'est cela que représente le bloc de l'Est.
Un mot sur le fait que l'INSTEX va être dissous cette semaine. Est-ce que certains analystes estiment que c'est une preuve de l'impuissance des Européens et de surtout leur non-souveraineté ?
Écoutez, l'Europe aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Europe, qui est en fait la petite Europe croupion de Bruxelles, c'est une colonie yankee, une dépendance vassalisée des États-Unis. Ce projet géopolitique, c'est un projet géopolitique bordé. Depuis qu'au traité de Maastricht, l'Europe a confié sa défense à l'OTAN. C'est donc l'Europe qui est en train lentement de sortir de l'histoire et d'être impuissante, évidemment, face à l'émergence de puissances mondiales que sont d'une part le bloc de l'Est, d'autre part le bloc américain.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Cornu, alors on a entendu dans le reportage le fait qu'il y ait, donc vous-même, vous l'avez indiqué, hein, le responsable du ministère de bancaire ici en Iran. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à la même situation qu'avec la Russie, c'est-à-dire un rapport direct entre deux banques, une iranienne, une chinoise, puisque c'est ce qui se passe avec la Russie, qui ont estimé que la mise en place de ce système bancaire, donc le SWIFT version russo-iranienne, se mettra en place d'ici fin 2023, si on est optimiste, et 2024, une certitude. Vous pensez que pour la Chine, on va aller vers ce même genre de rapport ?
Je pense que oui, parce que l'hégémonie américaine dans le domaine de la finance, des sanctions financières, est assez facile à mettre en place parce que pour l'instant, il y a un monopole de la société SWIFT, qui est une société pour les échanges, disons, financiers entre banques à l'échelle de l'ensemble du monde et qui a en fait un monopole de fait parce qu'elle a été créée longtemps et que le commerce en dollars et les échanges financiers en dollars qui sont très, très nombreux chaque jour passent tous par ce système-là et que donc les Américains, sur décision politique, peuvent couper l'accès des banques à ce système-là et donc les empêcher, les gêner, disons, pour faire des transactions financières. Donc, mais enfin, ceci, cet abus de cette monopole a permis que des systèmes parallèles sont évoqués.
Excusez-moi, M. Cornu, quand vous dites gêner, on arrive quand même à des situations comme en Syrie, où il y a des gros problèmes économiques qui font que, certes, au Yémen également, où la situation est tellement catastrophique qu'on en arrive à ne pas retrouver des médicaments. C'est plus que gêné, puisque l'Iran accuse, à cause des sanctions, la mort de patients ayant eu des maladies rares dont les médicaments n'étaient trouvables qu'à l'extérieur de l'Iran, par exemple.
Non, bien sûr, quand je dis gêner, c'est presque faire un obstacle très difficile et qui a des conséquences très dures, très, très dommageables pour les pays qui sont sous ces sanctions-là. Comme vous avez cité le Yémen, l'Iran, ça a été un moment d'autres pays d'Amérique latine. Et ceci est un abus, c'est sûr, mais qui n'est pas assez dénoncé par l'Europe. Et cet abus pousse finalement des pays puissants comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine, à développer petit à petit des modes de transaction entre pays par des accords bilatéraux et à utiliser surtout de plus en plus d'autres monnaies que le dollar pour leurs transactions. C'est vrai que les Américains abusent de lois qui prétendent extraterritoriales, c'est-à-dire avoir une influence, être applicable même dans des territoires à l'étranger hors des États-Unis, comme ils l'ont fait même pour des puissantes banques françaises qui avaient fait des transactions, par exemple, avec le Soudan, et elles ont été punies, elles ont payé des amendes. Et ces banques-là, face à la puissance hégémonique américaine, ces banques françaises ou européennes ne acceptent les conditions américaines pour ne pas se voir privées de toute capacité de commerce dans d'autres pays. Donc c'est une soumission totale actuelle à ce système dominant financier américain. Mais cet abus, justement, pousse les autres pays à créer des systèmes alternatifs. Ça prendra un peu de temps, ça nécessite des moyens, mais je pense que ça va aussi vers un monde unipolaire, multipolaire, au lieu d'avoir ce monopole sur le système SWIFT.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Luc Michel, nous entendons depuis le début de l'année 2023 le fait que le dollar risque de s'effondrer, notamment dû à la dette que possède ce pays, comme la France d'ailleurs. Chaque pays a une dette à payer. On dit que la dette américaine ainsi qu'européenne est extrêmement importante, voire catastrophique, et qui va directement dévaloriser donc le dollar et donc forcément l'euro. Est-ce que, avec ce genre de relations bancaires que veut mettre en place la Russie et la Chine, qui vont certainement pas être uniquement prédestinées rien qu'à l'Iran, certainement d'autres pays voudront se rajouter à ces nouveaux systèmes. Que va être l'avenir donc des rapports commerciaux avec les États-Unis et avec l'Europe ?
Écoutez, la politique américaine, c'est une politique hégémonique qui a été issue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une politique qui a des conséquences criminelles. L'histoire retiendra que les États-Unis ont sapé eux-mêmes les fondements de leur système monétaire international, notamment en voulant exclure l'Iran et la Russie. Aujourd'hui, le monde cherche d'autres mécanismes en particulier les manipulations du système SWIFT, évidemment, ont vu les Américains détruire eux-mêmes les fondements de leur système. Aujourd'hui, les peuples de la Terre ne veulent plus de cette domination du dollar. L'heure est à la dédollarisation du monde.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Cornu, j'ai une question à vous poser concernant donc le côté optimiste de la situation, sachant que l'Iran subit une inflation extrêmement importante, surtout depuis les dernières sanctions. Est-ce que vous pensez donc que l'Iran, grâce au fait que d'autres monnaies vont arriver sur le territoire, l'inflation va baisser, notamment parce qu'elle possède des matières premières extrêmement précieuses? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact pour la vie de toujours des Iraniens? Et donc ça va permettre de permettre aux Iraniens de se sentir plus soudés à leur gouvernement?
C'est possible, mais c'est toujours difficile de prévoir l'avenir. C'est sûr que le renforcement du commerce bilatéral va améliorer la situation de l'Iran. Donc cela aura sans doute à terme une répercussion sur le pouvoir d'achat des Iraniens. De toute façon, la Chine est un très grand producteur de produits de toutes sortes qui inondent les marchés mondiaux et qui aussi sont dans les marchés de l'Iran. Et donc, je pense que ce sera un effet positif, mais il est difficile de le quantifier, de voir exactement. Mais tout accord bilatéral de l'Iran avec d'autres pays est bénéfique pour sa situation économique et sociale. Donc pour desserrer l'étau des sanctions illégales qu'imposent les Américains suite à la propagande notamment de l'État israélien sur le programme nucléaire iranien qui est entièrement civil.
Merci. Et la mise en application de ces documents signés par M. Raisi et M. Xi Jinping, vous pensez qu'ils vont mettre combien de temps pour être mis en application? Parce que j'imagine, et je pense que les auditeurs imaginent que ça prendra un certain temps. On parle sur combien d'années, là?
Je pense qu'il y a des projets qui peuvent être réalisés rapidement. L'Iran a comme voisin à l'est le Pakistan, qui a une petite frontière par un col à haute altitude, avec la Chine. Donc la présence du ministre iranien chargé des routes est sans doute un signe qu'il y a des projets de routes intercontinentales ou d'amélioration de ces routes, parce qu'il y a déjà des passages, mais il faut sans doute les renforcer, peut-être créer des tunnels pour que les passages soient des altitudes plus basses pour faciliter le commerce de camions. Il y a bien sûr tous les projets de chemin de fer qui sont prévus dans le projet sponsorisé et en grande partie financé par la Chine, ce qu'on appelle ici en Occident les routes de la soie, qui sont, disons, une création d'interconnexion des réseaux ferroviaires et maritimes par le développement de certains ports dans tout ce domaine-là entre l'Asie et l'Europe.
Merci, M. Cornu. M. Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord, par l'expertise de M. Cornu, que pensez-vous donc de l'activation donc, de ces accords? Vous donnez à quelle année, on va dire, est-ce que ce serait plutôt 2024 ou plutôt vers 2025 où on pourra voir donc, les conséquences de ces accords?
Je pense que ça ira rapidement, parce qu'il y a une dynamique actuellement qui est menée par Moscou, Pékin et Téhéran, qui est de dégager le monde du filet de contrôle du dollar. Donc je pense que les choses seront assez rapidement, parce qu'il faut respecter cette dynamique. Et elle est portée par le nouveau mandat qu'a reçu Xi Jinping l'année passée, qui est de contrôler la politique chinoise pour la prochaine décennie.
D'accord. Et donc, vous pensez, comme M. Cornu, que ça va se passer par les chemins également de la route de la soie, que toutes ces facilités vont être les premiers travaux à mettre en mise en avant par les deux pays?
Oui, parce qu'évidemment, c'est le grand projet géopolitique de la Chine et c'est cela qui prime pour Xi Jinping.
Merci à M. Luc Michel. En conclusion, que vous pensez-vous donc des différents mouvements qui se sont passés pour l'Iran cette année, entre 2022 et 2023? Il y a eu des riches rebondissements, notamment l'aspect des accords de Shanghai, le BRICS qui disent envisager la venue de nouveaux membres, l'Iran qui passe plus de temps en Asie de l'Est, on ne parle pas seulement de la Chine, mais de tous ses voisins de l'Asie de l'Est. Qu'est-ce que vous pensez de, et également son, ce, il tend également vers l'Afrique, vers le continent africain. Qu'est-ce que vous pensez donc des démarches iraniennes? Est-ce qu'elles sont constructives? Est-ce que vous pensez que grâce à ça, elle va vraiment pouvoir permettre à mettre la paix, comme elle le dit depuis le début, comme le pays le dit depuis le début concernant le Moyen-Orient?
Écoutez, j'ai pronostiqué dès 2015 l'émergence de Téhéran comme la troisième grande puissance eurasiatique. C'est à cela que nous assistons maintenant. Évidemment, il y a une dynamique géopolitique qui porte l'Iran. L'Iran n'est plus l'Iran de 2015, qui est un pays isolé et qu'on avait tenté d'isoler à Genève. C'est une grande puissance qui marche en avant avec Pékin, avec Moscou, mais aussi avec l'Afrique. C'est donc cette émergence de l'Iran, mais également le rapprochement de l'Iran avec d'autres pays du Proche-Orient, notamment la fin du fossé qui séparait l'Iran de l'Arabie saoudite et qui est illustré par l'évolution du marché du gaz. C'est donc évidemment une période faste pour l'Iran et qui va avoir des conséquences, notamment la mise en ayant de la politique d'isolement américaine menée depuis le départ des Américains des accords de Genève.
Merci, M. Luc Michel. À vous, à votre tour, M. Bernard Cornu. Je vous propose donc de conclure le débat. Qu'est-ce que vous pensez donc des dernières démarches 2022-2023 de l'Iran ? Une démarche extrêmement active, bon, qui n'a pas commencé exactement en 2022, mais dont les aboutissements ont abouti donc en 2022-2023. Également son côté de tendre vers l'Afrique, puisque l'Iran a proposé à plusieurs pays africains de partager ses connaissances en matière de défense et de protection, étant donné que l'Iran a une grande expérience contre les terroristes à cause de la guerre en Irak et en Syrie. Que pensez-vous de la démarche iranienne? Est-ce que c'est une démarche constructive pour l'Iran et pour le Moyen-Orient?
C'est constructif pour l'Iran et pour l'ensemble même de la planète. On peut rappeler ici que le 19 juillet dernier, à Téhéran, le président Raisi a réuni le président Poutine et le président Erdogan. Et à la demande de Poutine, Gazprom a signé un accord pour un investissement de 40 milliards de dollars dans le développement des champs et des exportations, enfin des gazoducs en Iran. La Chine, je pense, dans cet accord d'hier, aussi doit prévoir sans doute avec l'Iran d'exporter le gaz par une voie sud, par la côte sud du Golfe, et vers le Pakistan, qui a besoin de gaz, et sans doute aussi à travers le Pakistan pour du pétrole et du gaz vers d'autres pays de la région asiatique. Donc, je suis moins au courant des efforts de l'Iran en Afrique, où il y a beaucoup de compétition, beaucoup la présence aussi de Turquie, qui a développé des ambassades, des réseaux de coopération, des projets de coopération par son agence de coopération. Mais c'est vrai que la qualité de la science et de la technologie en Iran et d'une partie de son industrie, notamment, on a vu récemment pour les drones, pour les missiles, permet effectivement d'attirer des pays africains qui ont des problèmes de défense vers disons, une coopération technologique et scientifique et industrielle avec l'Iran.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Luc Michel, vous voulez répondre quelque chose aux conclusions de Monsieur Cornu?
Oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Justement, il y a une dynamique qui porte les trois capitales eurasiatiques, Moscou, Pékin et Téhéran. Mais il faut souligner que ce qui unit surtout les trois capitales, c'est une idéologie positive, l'anti-américaine. Les États-Unis apparaissent de plus en plus aujourd'hui comme les ennemis du monde entier. C'est contre cela que réagissent Moscou, Pékin, Téhéran. Et c'est les Américains eux-mêmes qui ont uni leurs adversaires.
Merci, Monsieur Luc Michel. Merci, Monsieur Cornu. À tous les deux, je vous remercie d'avoir partagé votre expertise donc sur le sujet de la semaine, la visite de M. Raisi en Chine et la diplomatie qui a été mise en jeu depuis plus de 5 ans. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 44 à 47 du chapitre 42 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets de la sourate 42 du Noble Coran qui indiquaient que la sanction et la peine pour une mauvaise action doivent être identiques et proportionnées selon les règles de la justice. Dans d'autres versets, le Saint-Coran reconnaît le droit aux représailles, mais si l'oppresseur exprime ses regrets, il vaut mieux, selon ces versets, pardonner l'oppresseur, sachant que cette générosité et cette clémence seront récompensées par le Seigneur. Dieu aime les justes et il récompense davantage ceux qui font preuve de la clémence envers leurs prochains. Cela ne signifie point que la religion appelle les gens à piétiner le droit des individus à la justice et à la punition des oppresseurs. Mais la propagation de la clémence et des sentiments humains sont considérés dans le Noble Coran comme un élément du renforcement de la paix et de la fraternité parmi les créatures. Le Noble Coran met l'accent sur le fait que la générosité et la clémence doivent venir de la personne dont les droits ont été bafoués sans que personne ne l'oblige à le faire. La punition d'un coupable est un droit naturel et social, solidement fondé sur les principes du droit. N'oublions pas que dans de nombreux versets du Noble Coran, Dieu le Très-Haut affirme que les pécheurs et les malfaiteurs seront jugés et condamnés dans l'autre monde pour les crimes qu'ils ont commis, tandis que les vrais serviteurs de Dieu seront récompensés et logés dans le paradis céleste. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 44 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. Puis nous vous en donnerons la traduction. Et quiconque Dieu égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant, ne verra les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? L'une des traditions divines consiste à guider les humains pour qu'ils arrivent eux-mêmes à distinguer le juste de l'injuste, le bien du mal. Ces actions et décisions étant fondées sur la liberté, l'être humain sera responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il croit. Ceux qui choisissent la voie du mal et du péché sont donc responsables de leur choix, car la perdition n'est pas une destinée déterminée d'avance par le Seigneur, mais le résultat des actes de chaque individu. Quand l'individu commet du mal, Dieu le Très-Haut le prive de la lumière de la guidance et l'abandonne dans les ténèbres de l'égarement. Dans ce cas, le regret dans l'au-delà n'aura aucune utilité, car il n'existera aucun moyen pour lui de revenir en arrière pour réparer ses fautes. Les regrets ne seront utiles que lorsqu'il vit dans ce bas monde où il aura la possibilité de réparer ses fautes. Voici maintenant les versets 45 et 46 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui ont cru diront : les perdants sont certes ceux qui, au jour de la résurrection, font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront pas de protecteur en dehors de Dieu pour les secourir, et quiconque Dieu égare n'a plus aucune voix. Ces versets témoignent de l'angoisse et de l'horreur qui attendent les pécheurs et les égarés dans l'autre monde après la résurrection. Les pieux qui ont cru à Dieu diront qu'au jour du jugement dernier, les pécheurs et les malfaiteurs verront le résultat de ce qu'ils ont commis pendant leur vie dans ce bas monde. En effet, ils subiront un châtiment permanent et il n'y aura plus aucun secours pour eux. Ce qui sera encore plus horrible, au-delà des châtiments physiques, c'est le regret et les propos des croyants qui les blâmeront de s'être confiés aux richesses du monde matériel et aux désirs éphémères sans se soumettre à la volonté du Seigneur. Or, dans l'autre monde et au jour du jugement dernier, rien de ces richesses et ces puissances matérielles ne pourront les protéger. Écoutons enfin le verset 47 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Dieu ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier vos péchés. Dans ce verset, le noble Coran appelle les humains à se tourner vers leur Créateur avant qu'il ne soit trop tard, car au jour du jugement dernier, rien ne pourra les protéger et ils ne pourront aucunement nier leurs péchés. Le noble Coran indique que la porte du repentir est ouverte sur les pécheurs tant qu'ils vivent dans ce bas monde. ils devront en profiter pour se retourner vers Dieu et exprimer leurs regrets et invoquer le pardon du Seigneur. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 42 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Shura, la Consultation. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.